Bienvenue au balado « Tirer le meilleur de la recherche collégiale » avec Caroline Cormier, qui vous est présentée par le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec et l'Association pour la recherche au collégial.
Animée par Lynn Lapostole, la directrice générale de l'ARC, ces rencontres ont pour objectif de faire connaître le travail de chercheuses et de chercheurs de collèges impliqués dans le projet « Tirer le meilleur de la recherche collégiale » afin d'améliorer la réussite éducative.
Plus spécifiquement, il s'agira d'en savoir davantage sur leurs recherches ainsi que sur leur point de vue quant au transfert des connaissances issues de leur projet. Pour cet épisode, la parole sera donnée à la chercheuse Caroline Cormier, qui enseigne la chimie au cégep André Laurendeau depuis 2008.
Caroline Cormier détient un doctorat en éducation de l'Université de Montréal. Son principal intérêt de recherche est l'enseignement des sciences naturelles. Ses travaux portent autant sur les conceptions des étudiantes et étudiants et les méthodes pédagogiques que sur la communication.
En 2018, elle a reçu le prix Raymond Gervais de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec.
Outre les projets de recherche qu'elle mène, Caroline Cormier poursuit encore à ce jour des études universitaires, cette fois en communication. Depuis février 2021, on peut l'entendre régulièrement à l'émission Moteur de recherche sur ICI Première.
Voici la rencontre entre Lynn Lapostole et Caroline Cormier. Bonne écoute!
Bonjour Caroline.
Bonjour.
J'avoue que je suis vraiment très contente que tu acceptes de m'accorder du temps pour participer à ce balado. J'avais très hâte à notre rencontre.
Ah ben tout le plaisir est pour moi, Lynn.
Permets-moi de commencer en te demandant comment tu es venue à la recherche. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé des activités de recherche au collégial?
Ben en fait, c'est ça. Moi, je fais de la recherche en sciences d'éducation. Ma formation initiale est en biochimie. Puis quand j'ai terminé mes études de bac, j'avais pas du tout l'intention de faire de la recherche. C'est sûr que le domaine que je connaissais à ce moment-là, c'était le domaine de la biochimie, puis ça ne m'intéressait pas. Mais c'est que je n'avais même pas imaginé qu'on pouvait faire de la recherche dans un autre domaine. C'est arrivé un peu, c'est une question de circonstances, dans le fond. Un paquet de hasards qui se sont enchaînés, notamment, une session, c'est arrivé à plusieurs de mes collègues enseignantes et enseignants, là, une session au début de notre carrière où on a vraiment un tout petit contrat. J'avais juste 3 heures d'enseignement par semaine. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour occuper mon temps? Puis là, de là à maintenant, je fais de la recherche, là, il n'y a qu'un pas. Ça a l'air d'être plusieurs étapes, mais c'est vraiment ça qui a tout déclenché. J'ai décidé de retourner à l'université, justement en sciences de l'éducation. Puis là, en enchaînant les cours, là, un cours à cette session-là, parce que je m'ennuyais un peu chez moi, puis que j'avais envie d'avoir un défi. Puis les sciences d'éducation m'intéressaient parce qu'a priori, j'avais suivi quelques cours, mais je ne m'étais jamais spécialisée dans un domaine. Fait que, un cours à la fois, 2 cours pendant une session d'été et tout. Puis éventuellement, tout ça s'est accumulé. Et puis, par cumul de micro-programmes, j'ai eu une maîtrise. Puis c'est ça qui m'a donné, dans le fond, le déclic. Mais oui, si je peux faire des études graduées, après la recherche, je peux en faire aussi une carrière.
Et après tes études de maîtrise, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de poursuivre en faisant un doctorat qui t'a amené là où tu es maintenant, dans le domaine qui est le tien maintenant?
En fait, après la maîtrise ou à la fin de la maîtrise, il y a un prof qui m'avait enseigné dans un des cours qui m'a dit « Ah ben tiens, ça fonctionne bien, tout ça, ça ne t'intéresserait pas de poursuivre tes études au doctorat? » C'est une chose que j'avais ça non plus jamais envisagée. Finalement, oui, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas, je vais continuer au doctorat. » Et puis, j'ai pu combiner mon projet de recherche doctorale avec, en fait, ma première recherche subventionnée qui provenait réellement là, d'un intérêt professionnel d'abord et avant tout. Ça ne venait pas d'une recherche systématique de la littérature. Ça venait vraiment d'une vraie question que j'avais. Pourquoi mes étudiants ne comprennent pas ça? C'était une chose que je trouvais tellement simple. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête pour tirer ce genre de conclusion-là? Ici, on parle d'un concept en chimie générale là, où la forme de la molécule influence sa polarité. Puis ça me semblait tellement algorithmique, là, 1 plus 1 égale 2, que je ne pouvais pas comprendre que les étudiants avaient en fait ce qu'on appelle des conceptions alternatives, des représentations dans leur cerveau qui sont différentes du modèle scientifique, mais auxquelles on n'a pas directement accès. On ne peut pas demander aux étudiants, dis-moi comment tu te représentes la matière, comment tu te représentes le sous-microscopique. Mais en fait, on ne peut pas le faire tant qu'on ne leur demande pas. Puis c'est sûr que ça, on ne peut pas le faire dans le cadre d'un enseignement traditionnel. Ça prend beaucoup de temps là, de questionner chaque étudiant. Mais c'est ce qui m'intéressait vraiment au début. C'est, je me disais, avec ce projet de recherche-là, le premier que j'ai fait, je vais pouvoir vraiment aller questionner les étudiants. Puis là, je suis allée dans le micro et dans le macro. J'ai eu des entretiens avec les étudiants. J'ai aussi fait des questionnaires avec plusieurs milliers d'étudiants pour voir un portrait général, mais aussi des situations particulières pour creuser justement les difficultés que les étudiants avaient justement à propos de ce sujet-là. Puis ça m'a donné envie après d'élargir un peu. Là. Je ne suis pas juste restée sur la géométrie. Je suis allée un peu plus loin.
Tu es partie d'une vraie question que tu te posais, comme tu l'as dit tantôt, poursuivre tes travaux de recherche. Et maintenant, quelles sont les questions que tu te poses? Parce que tu as continué tes travaux. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Sur quoi portent tes travaux à l'heure actuelle?
Et c'est ça, c'est intéressant de savoir pourquoi les étudiants ont de la difficulté, mais c'est surtout intéressant de trouver des solutions pour les aider. Alors que mon premier projet servait surtout à identifier ces problèmes-là puis à essayer de trouver les raisons de raisonnement derrière lesquelles les étudiants, sur lesquelles les étudiants s'appuyaient. Maintenant, je me concentre plutôt sur des petits projets, semi-expérimentaux, quasi-expérimentaux, où on teste des méthodes d'enseignement pour voir laquelle est la meilleure pour telle et telle fin. Par exemple, laquelle serait la meilleure pour améliorer la compréhension conceptuelle des étudiants ou laquelle est la meilleure pour là, présentement le sujet sur lequel on est en train de travailler. J'ai une équipe de recherche, là, on est des chercheurs de 4 collèges. On travaille sur une méthode pour utiliser les activités de laboratoire pour les étudiants de sciences de la nature, là, les laboratoires expérimentaux, pour utiliser ces activités-là au mieux pour que les étudiants développent pas seulement des habiletés de manipulation, être capable de mesurer 25 millilitres précisément et tout ça, mais aussi et surtout pour qu'ils développent ce qu'on appelle les habiletés de haut niveau de raisonnement scientifique. Donc, tout ce qui est la méthode scientifique, la compréhension et immédiatement au moment où on voit des observations en laboratoire, comment on peut utiliser cette information-là pour avoir de la rétroaction sur ce qu'on devrait faire comme modification, par exemple, à notre méthode, ou tirer des conclusions à partir des résultats expérimentaux, mais qui viennent de projets de laboratoire qui sont plus vastes et qui sont plus complexes que juste ce qu'on appelle des protocoles de laboratoire recettes, là, comme si on suivait une recette de cuisine, là, mélanger 10 grammes avec... Ça, c'est les recettes un peu. Nous, on essaie de travailler sur un autre type de laboratoire qui s'appelle le laboratoire par enquête guidée. C'est sûr que, c'est sûr, c'est mon hypothèse, puis je pense que ça va se valider dans la recherche, mais disons que je suis convaincue, c'est vraiment mieux de ce type de laboratoire-là, justement, de laisser un peu de liberté aux étudiants, enlever quelques contraintes, les mettre face à des choix, ça leur permet justement, le fait qu'on les met dans des situations où ils ont à prendre des décisions, ça permet aux étudiantes et aux étudiants de développer ces habiletés de raisonnement plus avancées que juste de suivre un protocole.
Ça doit aussi avoir un effet très bénéfique sur leur motivation.
C'est certain, justement, plus on laisse des choix aux étudiants, plus leur motivation est grande, leur engagement dans leurs études, ça ne se voit pas juste dans le laboratoire, là, ça se répercute sur l'ensemble du cours, puis même sur l'ensemble du programme.
Alors, les travaux que tu mènes visent éventuellement à ce que les étudiantes et étudiants profitent vraiment de leurs études, soient bien dans leurs études, aiment leurs études. Je sais que ça fait partie des valeurs que tu aimerais transmettre aux étudiantes et étudiants. Pour y arriver, tu dois nécessairement passer par les professeurs, les gens qui vont appliquer ces méthodes que tu préconises après les avoir testées, validées par la recherche. Et donc, on est dans le transfert de connaissances. Toi et moi, on a suivi ensemble un cours d'initiation au transfert des connaissances. On a appris beaucoup de choses dans ces cours-là et je suis certaine que certains des éléments du cours sont particulièrement pertinent pour toi, pour ce que tu as à faire. Alors, comment est-ce que tu fais pour justement intégrer les notions de transfert de connaissances qu'on a appris dans ton travail?
En fait, c'est ça, c'est que les connaissances qu'on... Puis certains de tes autres invités dans les numéros précédents des balados en parlaient, les connaissances ne doivent pas juste être transférées à la fin du projet de recherche. Puis c'est une des choses qu'on a apprises qui est vraiment restée chez moi. Là. Ça m'a beaucoup marqué du cours dont tu parlais à l'instant là, sur le transfert des connaissances. C'est-à-dire qu'il faut planifier le transfert dès le début du projet, puis il faut en faire tout au long. Puis là, je me demandais au début du cours, c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé au professeur de l'Université de Montréal qui a développé le cours, Christian Dagenais. Je lui ai demandé, oui, mais comment on peut transférer des connaissances si notre projet vient tout juste de commencer puis qu'on n'a pas de résultats de recherche? Puis au fil des discussions, en fait, c'est ce qu'on s'est bien rendu compte, c'est que le transfert des connaissances, ce n'est pas uniquement la diffusion de nos résultats à nous, ce n'est même pas juste le transfert de nos propres résultats à nous, c'est les connaissances de façon générale. Donc, si au début d'un projet de recherche, moi, je n'ai pas encore de résultats, par exemple, bien, je peux quand même diffuser des connaissances puisque j'appuie mon cadre théorique puis toute ma méthodologie de recherche sur des écrits qui proviennent d'autres recherches, qui proviennent d'autres chercheurs, mais ces données-là, c'est des connaissances. Puis là, c'est ce qu'on fait, en fait. Présentement, dans notre projet de recherche, on a entrepris un programme de transfert de connaissances dès le début où on transfère pour l'instant pas nos connaissances à nous, c'est-à-dire pas les connaissances issues de nos propres recherches, mais plutôt issues d'autres recherches qui appuient notre cadre théorique et puis sur lesquelles, en fait, qu'on a trouvé en faisant un inventaire des écrits. Le genre de choses que les profs dans leur pratique enseignante n'ont pas nécessairement le temps ni peut-être même l'envie de faire, aller écumer des rapports de recherche d'études qui sont de l'étranger, par exemple. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a élaboré une espèce de programme. Au départ, c'était vraiment des ateliers de formation pour les profs, mais ça devient de plus en plus, puis c'est super, là, ça devient de plus en plus ces rencontres-là, des communautés de pratique où les gens partagent leur pratique autour des enjeux qui rejoignent les nôtres dans notre projet de recherche. Donc, ça se trouve à être, oui, effectivement, du transfert de connaissances, puisque nous, on arrive avec les résultats de la recherche qu'on peut présenter, ça peut être utile pour cadrer, au fond, les interventions pédagogiques que les profs veulent essayer ou aimeraient essayer. Donc, ça les renseigne. On peut considérer les profs à ce titre-là tout à fait comme des utilisateurs de connaissances. Puis, puisque c'est un programme, c'est vraiment itératif, puis c'est vraiment, on se rencontre de façon régulière, ça me permet, moi, de constituer la base des utilisateurs de connaissances vers qui je vais transférer mes résultats de recherche. Une fois que je vais les avoir, je vais avoir déjà identifié les gens qui seront intéressés, puis chez qui mes résultats de recherche vont trouver un écho. Donc, peut-être, justement, d'avoir intéressé ces gens-là tôt dans mon processus, ça va éventuellement permettre, là, je vais citer le titre d'un projet que tu connais bien, Lynn, mettre à profit le mieux possible les résultats de la recherche. Donc, à ce moment-là, le transfert des connaissances, il doit être pensé tôt dans le programme de recherche et aussi, il doit être pensé au regard des besoins des utilisateurs de connaissances. Puis pour savoir quels sont ces besoins-là, même si ce sont mes collègues de plusieurs collèges, mais je veux dire, on enseigne dans les mêmes disciplines, dans le même programme, je ne peux pas anticiper quels sont les besoins de toutes ces personnes-là parce que on n'est pas tous pareils. Puis il y a des gens qui ont des besoins, qui sont différents des miens. Je me situe vraiment à l'interface entre ici une chercheuse, une certaine forme de courtière de connaissances, je n'irai pas jusque-là, mais une certaine forme, et une praticienne aussi de l'enseignement. Donc, je suis la bonne personne, en fait, parce que ces gens-là, les gens qui viennent à nos rencontres de communautés de pratique, reçoivent des informations, sont mis en contact avec des connaissances qui trouveront écho chez eux parce qu'ils en ont besoin de ces connaissances-là. Donc, voilà, ça raccourcit le processus pour quelqu'un qui voudrait s'informer des résultats de la recherche.
À la fois le cours qu'on a suivi, cette pratique que tu mets en place avec des collègues au sein d'une communauté, penses-tu que ça va modifier ta façon d'intégrer le transfert des connaissances quand tu auras terminé ta recherche? Est-ce que tu penses que tu vas le faire différemment de ce que tu faisais auparavant?
Mais je pense que oui, parce que si on parle d'auparavant, c'est-à-dire avant que je suive le MOOC sur le transfert de connaissances, j'avais même aucune idée de ce que c'était que le transfert de connaissances. Puis un peu comme chacun des chercheurs qui en ont parlé dans ton balado, ben, je pensais qu'il suffisait d'aller en congrès puis m'adresser à d'autres scientifiques en sciences d'éducation, puis c'était suffisant. Là. Ça répondait aux... Tu sais, ça répondait aux attentes des bailleurs de fonds là, pour la recherche. Donc, je vais en congrès, c'est bon, j'ai pas besoin de faire plus. Mais en fait, justement, le fait que mon quand mon projet va se terminer, bien, à quel moment on dit le projet est terminé? On a l'impression que le projet est terminé quand on arrête de recevoir du financement, mais bien sûr que non. Je veux dire, jamais je vais arrêter de m'intéresser au laboratoire par enquête guidée. Ce n'est pas parce qu'au bout de mes 3 ans de subvention, le projet se termine. Au contraire, il doit se continuer, puisque là, c'est là où j'ai toutes mes connaissances issues de ma propre recherche, puis c'est là où je peux vraiment élaborer des outils de transfert qui sont construits sur ces résultats-là. Donc, ça amène justement un certain enjeu pour les profs de collégiales qui font de la recherche. Plusieurs de nos programmes de financement, en fait, le principal programme de financement pour la recherche éducative au collégial, le PAREA, une fois qu'il est terminé, c'est pas comme si on était un prof d'université et qu'on avait du financement de façon récurrente. Si on veut être financé pour un projet suivant, il faut refaire une demande, puis là, c'est tributaire de ben, est-ce qu'on va l'avoir cette année-là. Donc, il y a des gens qui reçoivent un PAREA, que leur projet, ben, en fait, que la subvention se termine, et puis là, ils arrivent au moment où ils voudraient transférer leurs propres résultats de recherche. Puis là, ben, ils n'ont plus de financement, donc ils retournent enseigner à temps plein. Et puis quand on enseigne à temps plein, ce n'est vraiment pas le moment où on peut sortir la tête de l'eau puis élaborer ce genre d'outils-là parce qu'on est dans le quotidien puis dans la rétroaction à fournir aux étudiants et tout. Donc, c'est intéressant pour un prof qui a l'opportunité d'avoir du financement de façon continue, un projet qui s'enchaîne avec un autre projet, mais il n'y a rien de garanti là-dessus. Ça peut être difficile. Il y a peut-être moyen, puis c'est peut-être un souhait ici que je voudrais formuler, c'est que si jamais la personne qui vient d'avoir tous ces résultats de recherche-là n'est plus financée l'année suivante, qu'il y ait moyen d'avoir une espèce de financement à côté ou quelque chose comme ça qui servirait uniquement à ça, mais là, il faudrait que cette personne-là produise un plan détaillé avec tous les outils de transfert de connaissances que cette personne-là voudrait développer, les activités, les utilisateurs potentiels et tout. Puis ben, pour faire tout ça, j'imagine que le MOOC sur le transfert de connaissances serait utile puisqu'il donne les outils pour élaborer ce genre de programme-là. C'est quelque chose d'assez complexe. Bref, si moi j'ai la chance d'avoir des projets qui sont consécutifs, au moment où je suis présentement, mettons, appelons-le le projet B sur les laboratoires par enquête guidée, je suis encore en train de faire la diffusion de mon projet, mettons, appelons-le A, celui qui portait sur la communication orale scientifique. Je suis encore là-dessus. Là. On est encore en train de faire des choses. Bien sûr qu'on est encore en train de faire des choses, comme je te disais tantôt. C'est pas quand le financement arrête que le projet tombe dans l'oubli. Donc, heureusement, mes projets sont consécutifs, mes subventions sont consécutives, mais il y aurait peut-être moyen d'améliorer ça parce que c'est un réel enjeu là, pour les profs de collège qui font de la recherche.
Alors, je l'entends comme un souhait qu'on pourra transmettre aux organismes subventionnaires, aux bailleurs de fonds dont tu parlais tantôt. Je te remercie infiniment, Caroline, à la fois pour la générosité avec laquelle tu as répondu à mes questions, mais pour celle avec laquelle tu mènes tes projets.
Je te remercie beaucoup, Lynn. Ça me fait très plaisir d'avoir discuté avec toi. Puis, je vais continuer à faire de la recherche là, parce que c'est un réel plaisir. J'invite tout le monde à l'essayer au moins une fois dans sa vie.
Alors, sois heureuse.
Merci, toi aussi, Lynn.
Nous tenons à remercier Caroline Cormier et Lynn Lapostole pour cette discussion intéressante à propos de la recherche collégiale et du transfert de connaissances.
Tirer le meilleur de la recherche collégiale vous est présenté par le Centre de transfert pour la réussite éducative, qui est le promoteur du projet, et l'Association pour la recherche au collégial, qui en est le partenaire principal.
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.
Ce balado a été réalisé par l'École supérieure en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière, sous la supervision de l'enseignante et chercheuse Sophie Beauparlant.
Je m'appelle Nicolas Plourde.
Et moi, Léa Compartino. Nous étudions tous les deux à l'École supérieure d'art et technologie des médias en animation et production radiophonique.
L'équipe du projet Tirer le meilleur de la recherche collégiale vous donne rendez-vous pour les prochains balados.